Le journal, c'est avec vous, Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour, et l'année 2016 se termine par une bonne nouvelle pour les éléphants, pas ceux du PS, non, les vrais éléphants. La Chine va interdire le commerce d'ivoire d'ici fin 2017. Le marché chinois est le premier au monde. Le commerce international était déjà interdit, mais toujours autorisé à l'intérieur de la Chine, où l'ivoire est très recherché. C'est un signe de statut social élevé. Il peut atteindre jusqu'à 1000 euros le kilo. Plus de 20 000 éléphants d'Afrique ont été massacrés l'an dernier pour leur ivoire. Les associations de défense saluent donc la détermination de la Chine à stopper l'extermination de l'animal. Cela dit, le combat n'est pas terminé. Hong Kong pourrait devenir la nouvelle place forte pour les trafiquants. Le monde s'apprête donc à basculer dans l'année 2017. Sydney sera à 14h heure française la première à lancer le compte à rebours sous très haute sécurité, comme toutes les métropoles, New York, Berlin, bien sûr, après l'attentat du marché de Noël, ou encore Paris. À Paris, on attend au moins un demi-million de personnes sur les Champs-Élysées qui seront quadrillées par des centaines de policiers. En France, la nuit prochaine, ils seront 100 000 mobilisés, policiers, gendarmes et militaires. À 20h, François Hollande présentera aux Français ses derniers vœux présidentiels. Une dizaine de minutes au cours desquelles il devrait revenir sur les épreuves de 2016, les attentats donc, la Syrie, mais aussi faire un premier bilan de son quinquennat. Positif selon lui pour l'emploi, avec le début de l'inversion de la courbe. Enfin, tracer les enjeux pour 2017. Défense du service public, sécurité sociale. Président jusqu'au bout, donc, c'est ce qu'il entend montrer. Il devrait pourtant se garder de soutenir un candidat pour la primaire de la gauche. Aux États-Unis, Donald Trump, pas encore à la Maison-Blanche, mais déjà président, il tacle Obama et salue, je cite, « l'intelligence de Poutine ». Le président russe a surpris hier en ne répondant pas aux représailles américaines après les cyberattaques attribuées aux Russes qui auraient favorisé l'élection de Donald Trump. 35 agents russes ont été expulsés des États-Unis et il n'y aura en revanche aucune expulsion de diplomates américain, c'est ce qu'a finalement décidé Poutine. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila quittera le pouvoir après des élections qui seront organisées avant fin 2017. L'accord négocié sous l'égide de l'Église lui interdit également de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. Après son 49-3 incontestable, 49 jours et 3 heures, record du Tour du Monde en solitaire en multicoque, Thomas Coville était hier de retour à la maison. Son trimaran a retrouvé sa place dans le port de la Trinité-sur-Mer. 2000 admirateurs étaient là pour l'accueillir. Fabien Randria Narissoa.
Arrivé parmi les premières sur les quais verts glacés du port de la Trinité, Nicole scrute l'horizon en plissant les yeux. Ça y est, Thomas Coville en vue à midi.
Oui, je l'ai vu, oui, on distingue son mât qui est très reconnaissable quand on le voit naviguer, faire des manœuvres dans la baie de Quiberon. Donc c'est bien lui. Il est à la maison, absolument.
Arrivé à Brest 4 jours avant, le trimaran Sodebo Ultime amarre enfin dans son port d'attache sous les hurrahs et une petite larme salée coule sur la joue du skipper.
D'arriver aujourd'hui ici, c'est pas du tout pareil. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que pendant ces 49 jours et 3 heures, tous les regards qui me sont très intimes, tous les gens qui sont là et qui étaient là quand je revenais avec mes bottes et que je les traînais parce que ça n'avait pas marché, je vous ai porté en moi à l'intérieur de mon ventre. Pendant ces 49 jours et 3 heures, c'est pas autre chose, c'est une espèce d'émotion extrêmement dense.
Lorsque Thomas Coville prend la parole sur le podium, le public peut lire derrière lui une de ses citations préférées, une de Saint-Exupéry, « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Fabien Randria Narissoa, France Bleu Armorique pour France Inter.
Encore un petit mot de sport dans le top 14. Hier soir, Lyon a battu Bordeaux-Bègles 19-16. Aujourd'hui, déplacement compliqué pour Clermont à Toulouse et Montpellier à Pau. Le top 14 avec une 15e journée qui se trouve à cheval sur 2016 et 2017. À cheval aussi sur 2016 et 2017, et bien c'est le dernier week-end de l'année qui est présenté le 6-9 par Julia Foyce.
C'est ça, à cheval sur ma chaise. Merci Bernadette Chamonnaz. On vous retrouve à 7h30. Nous, on va prendre des nouvelles du ciel. Quel temps pour votre dernier jour de l'année ? Mitigé, Sébastien Léas.
La météo avec les chapons fermiers de Loué. Authentique chapon fermier.
La journée sera bien ensoleillée sur les Pyrénées, le Massif central et tous les massifs de l'Est aujourd'hui. Soleil également en Corse et des Bouches-du-Rhône à la Côte d'Azur. Mais sur le reste du pays, le ciel sera couvert de nuages bas avec des brouillards givrants. Attention donc aux routes glissantes. Cette grisaille évoluera peu sur la moitié ouest et cet après-midi restera chargée. Quelques gouttes seront même possibles en Bretagne et sur le Pas-de-Calais. Ce sera mieux sur le nord-est et le sud-ouest avec le retour d'éclaircies, hormis entre le Val-de-Saône et le Lyonnais où le ciel restera gris cet après-midi. Des nappes pourraient aussi résister entre l'Alsace et la Lorraine. Autour du golfe du Lion, les entrées maritimes seront moins compactes et des éclaircies reviendront progressivement. Les températures minimales seront encore très froides, descendant entre moins 7 et plus 2 degrés en général. Malgré une petite hausse, les maximales resteront en dessous des normales de saison, variant de 1 à 16 degrés.
Tous les samedis sur France Inter, à 13h20,
Secret d'info, le magazine de l'investigation.
Jacques Monin.
Ce samedi, retour sur un an d'enquête à travers les événements qui ont marqué 2016. L'état d'urgence qui s'est prolongé, l'église secouée par les affaires de pédophilie et le football gangréné par l'argent.
Secret d'info.
2016, revisité par Secret d'info, c'est ce samedi à 13h20 sur France Inter.
Le 6-9 du week-end. Julia Foyce sur France Inter.
Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne sont pas encore couchés, les coquins, ou ceux qui viennent de se lever, les courageux. Oui, pour ce dernier samedi de l'année, Patricia Martin s'est évaporée, même, mon petit doigt me dit qu'elle pense fort à vous, et vous la retrouverez, bien évidemment, dès 2017. D'ici là, nous, on garde la maison, et ce, jusqu'à 9h. En régie, Marie Meria, la réalisation, Martin Broyer, attaché de production, à la technique, Juliette Delperroux et Sacha Trop, et avec moi, en studio, bien sûr, Pierre Veil. Bonjour Pierre.
Bonjour Julia Foyce.
À 8h20, on retrouve l'invité politique de la semaine et pour le dernier de l'année, il s'agit de...
Fahd Al-Masri, qui est coordinateur du Front de salut national en Syrie, un mouvement d'opposition à Bachar el-Assad. Cette opposition accepte, vous le savez, un cessez-le-feu en Syrie mis au point par la Syrie, la Turquie et l'Iran. Des négociations vont commencer. Peuvent-elles aboutir au départ de Bachar el-Assad? C'est la question que l'on posera à notre invité Fahd Al-Masri.
À 8h40, on élargit le cercle. C'est le club des correspondants étrangers. Avec qui aujourd'hui?
Alors, ce matin, Bilal Muftuoglu, qui est le correspondant en France de l'agence nationale turque Anadolu, et puis Frédéric Treffel, qui est le correspondant de plusieurs magazines africains, La Dépêche diplomatique et Afrique démocratie. Et puis bien sûr, dans quelques instants, Julia, il y aura
l'actualité francophone, bien sûr.
Tout à fait, le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Afrique et... la France.
Merci Pierre, à tout à l'heure dans moins de 20 minutes l'instantané avec un coup de projecteur ce matin sur l'une de nos dernières icônes pop, George Michael. À 6h42, les titres de la presse avec Rémi Inc. D'ici 7h, à suivre également Le Vrai Faux de l'Europe, Livre en Poche et Dicosomatique pour les amoureux des mots, les amoureux du corps ou les deux. Voilà, vous savez tout ou presque. Alors on l'a bien mérité, musique pour ouvrir ce 6-9. Un peu d'amour, d'amour en solitaire. On écoute Juliette Armanet.
Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, seul dans ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette, tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau, des matelots. Traverse le désert,
L'amour en solitaire, Juliette Armanet, il est 6h10, c'est l'actualité francophone.
L'actualité francophone pour ce dernier numéro de l'année 2016, émission un peu particulière, nous allons revenir sur un événement ayant marqué l'actualité au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique. Benoît Audet, un des événements forts de l'année au Canada, le gigantesque incendie qui a ravagé le nord de la province de l'Alberta le printemps dernier.
Oui, les feux de forêt ont ravagé des centaines de milliers d'hectares de territoire et une partie de la ville de Fort McMurray, la capitale des sables bitumineux au Canada. Des dizaines de milliers de résidents ont dû fuir la ville, certains pendant des semaines. Plus de 2000 maisons et bâtiments ont également été détruits. C'est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Canada.
Benoît, ces incendies ont aussi eu un effet direct sur l'économie canadienne.
Oui, la production de pétrole a été paralysée pendant des semaines. En mai, la production a même diminué d'un million de barils par jour, ce qui a entraîné une baisse du produit intérieur brut du Canada. Par contre, on s'attend à ce que la reconstruction de la ville donne un coup de pouce à l'économie de la province de l'Alberta.
Et même si la vie reprend tranquillement, la reconstruction sera longue.
Et coûteuse également. Une étude évalue les coûts de la reconstruction d'ici 2019 à 5 milliards de dollars, soit 3 milliards et demi d'euros. Il y a aussi les effets psychologiques. Ces incendies ont entraîné une grande détresse chez les gens qui ont tout perdu. Le quart de la population, soit environ 20 000 personnes, ont fait appel aux services d'aide psychologique pour des problèmes de choc post-traumatique, entre autres.
En France, événement marquant de l'année, le terrorisme djihadiste, le meurtre d'un couple de policiers près de Paris, l'attentat de Nice, 86 morts, un prêtre égorgé dans une église proche de Rouen, le terrorisme au cœur du débat politique, extension de la déchéance de nationalité, plusieurs mois de discussion, la gauche fracturée, le président de la République choque sa propre base électorale, il renonce, faute de majorité. La droite aussi en difficulté, elle pâtit de son bilan, la suppression de postes de policiers durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. La France reste sous le régime de l'état d'urgence. La police peut agir sans le contrôle d'un juge judiciaire. Le gouvernement estime que son arsenal sécuritaire est suffisant et refuse des Guantanamo à la française. Certains à droite demandent en effet des mesures d'exception, l'internement de personnes présumées dangereuses. Autre sujet dans le débat public, la place de l'islam dans la société. Crispation plus exacerbée que jamais, comme la controverse autour du Burkini sur les plages cet été. La France vit une situation inédite de ni guerre ni paix, dont il lui faudra du temps pour sortir. Mais lors d'un discours en septembre, François Hollande n'avait aucun doute sur la suite.
Le terrorisme islamiste a l'illusion de croire que la démocratie est faible et qu'il peut l'ébranler en l'effrayant, la diviser en l'épouvantant, la faire douter en radicalisant une infime partie de la jeunesse. Ils se trompent. Nous connaissons les lois de l'histoire. Les démocraties gagnent toujours les guerres.
Voilà, François Hollande en septembre. En Belgique aussi, l'année 2016 aura été marquée par le terrorisme djihadiste islamiste, Nathalie Devic.
Et oui, 4 mois après Paris, 4 mois avant Nice, c'est au tour de Bruxelles de vivre l'horreur. Le 22 mars, la capitale se réveille frappée par 3 attentats kamikazes, 2 à l'aéroport, puis 1 dans le métro. 35 morts, 340 blessés. Les attentats les plus meurtriers commis chez nous, rapidement revendiqués par l'organisation terroriste État islamique. Pour le Premier ministre Charles Michel, l'heure est grave.
Ce que nous redoutions s'est réalisé. Notre pays et nos concitoyens ont été frappés par des attentats.
Le ton contraste avec le soulagement affiché 4 jours plus tôt lors de l'arrestation de Salah Abdeslam, seul survivant des attentats de Paris. Les terroristes de Bruxelles appartiennent à la même cellule, issue des quartiers pauvres de la capitale, Molenbeek notamment, que le monde découvre comme un foyer de filières djihadistes. Place désormais aux polémiques. Pourquoi a-t-on attendu pour fermer le métro? Pourquoi l'un des terroristes interpellés en série n'a pas été remis aux autorités belges? On frôle la crise politique. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice rendent leur démission, refusée pour ne pas déstabiliser davantage le pays. Il n'est alors plus question que de traque perquisitions, arrestations, sous un niveau d'alerte longtemps maintenu maximal, avec déploiements policiers et militaires partout en rue. Une nouvelle guerre s'est installée contre un terrorisme fait également d'actes isolés, comme quand cet été un homme muni d'une machette s'attaque à deux policières devant un commissariat. L'année s'achève donc sur une nouvelle donne pour les Belges, eux aussi. La volonté ferme de ne pas s'arrêter de vivre librement, tout en apprenant désormais à se méfier de tout.
En Suisse, Pierre-Henri Chauffat, l'année 2016 restera sans doute dans les livres d'histoire avec la mise en service du plus long tunnel ferroviaire du monde.
Inauguré en grande pompe en juin dernier, le tunnel de base du Gotthard mesure pas moins de 57 km de tubes unidirectionnels où les trains voyageurs foncent désormais à 200 km à l'heure. Cet ouvrage révèle la compétence des ingénieurs dont les calculs se sont avérés d'une précision redoutable. Percés simultanément depuis les extrémités nord et sud du massif du Gotthard, les tubes se sont parfaitement retrouvés sous la montagne après avoir été creusés inlassablement sur plus de 28 km de chaque côté.
Et Pierre-Henri Chauffat, c'est ce qui vous a valu la reconnaissance des hôtes étrangers venus participer à l'inauguration l'été dernier.
Oui, c'est vrai. Figurez-vous, Pierre, qu'on parle même aujourd'hui de l'effet Hollande. Le président français s'était en effet incliné devant la Suisse, devant ses ingénieurs, comme en témoigne Nicolas Steinmann, qui a travaillé 22 ans sur ce chantier hors du commun.
Cette petite révérence que François Hollande a fait, l'effet Hollande, que l'on sent actuellement, puisque ça fait déjà plusieurs semaines que différentes délégations françaises prennent contact pour demander justement des échanges d'informations pour qu'on puisse justement leur présenter un petit peu les clés du succès de ce projet pharaonique.
La Société du Grand Paris et son projet de ceinture autour de la capitale française s'est notamment intéressée aux technologies mises en œuvre au Gotthard. En service normal depuis le 11 décembre dernier, le tunnel de base ne déploiera tous ses effets qu'à fin 2020 avec le percement du Tchéneri, modeste tunnel de 15 km. Les voyageurs gagneront alors une heure sur le trajet entre Zurich et Milan.
2016 en Afrique, Charlotte Hydrac, une année riche en élections.
Pas moins de 15 scrutins présidentiels sur le continent et un bilan contrasté. Il y a les élections qui se sont bien déroulées au Bénin avec la victoire de Patrice Talon ou au Ghana où l'opposant Nana Akufo-Addo l'a emporté. Il y a eu aussi des élections contestées au Gabon, au Tchad, au Congo-Brazzaville ou alors des présidentielles qui n'ont tout simplement pas été organisées comme en République démocratique du Congo ou en Somalie.
Et les analystes, Charlotte, parle d'une véritable fracture démocratique.
Une fracture entre l'Afrique de l'Ouest, où cela fonctionnerait mieux, et l'Afrique centrale. Le chercheur sénégalais Amadou Diouf fait le lien avec l'histoire coloniale.
Ce sont des systèmes coloniaux différents. Le système colonial ayant permis aux Africains de l'Ouest, non seulement d'apprendre le système, mais d'y évoluer et de s'ouvrir des espaces qui sont des espaces d'expression et d'autonomie, ce qui n'a pas été le cas de l'autoritarisme et de la brutalité des systèmes coloniaux en Afrique centrale. Et ça a donné naissance à des classes politiques.
Mais comme dans toute règle, il y a des exceptions à l'Ouest, par exemple la Gambie et le revirement du président Yahya Jammeh qui refuse de reconnaître sa défaite à la présidentielle. Et en Afrique centrale, la Centrafrique avec l'élection dans le calme de Faustin Archange Touadéra, un scrutin appuyé par les partenaires internationaux.
C'était l'actualité francophone. Merci de votre fidélité. À l'année prochaine, notre site lesmediafrancophones.org.
Dans quelques minutes, la photo de la semaine et l'ombre de George Michael planera sur ce studio. Mais il est 6h19, il est temps de retrouver l'homme aux doigts d'or, le pianiste de France Inter, Jean-François Zigel. Jean-François Zigel, bonjour.
Bonjour Julia.
Mais comment ça va ?
Mais ça va très bien, je m'apprête à passer le fatidique passage de l'an.
Le cap de la nouvelle année. Est-ce que vous êtes prêt?
Non, tout va, je ne suis pas prêt. Ben non, je suis en retard. Il me manque des tas de trucs comme tout le monde, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez mis une belle robe là? Vous êtes magnifique. Vous avez vos plus beaux habits.
Alors j'ai une robe à paillettes et j'ai également une couronne de plumes.
Oui,
la fameuse couronne de plumes dite de Dalida.
Oui, mais l'ensemble, on appelle ça la panoplie Sissi.
Eh ben exactement.
Et vous savez qu'on dit être sur son 31, vous êtes mis sur votre 31.
Exactement, et alors la panoplie Sissi, évidemment, c'est un clin d'œil pour vous. Hein. Je ferai n'importe quoi pour que vous sentiez bien ici, chez nous, dans le 6-9 de France Inter.
Mais j'ai bien compris, vous vous préparez à danser, à valser langoureusement dans mes bras.
Exactement, mais d'ailleurs, allons-y, levons-nous. Non, restez assis encore quelques minutes, dites-nous, qu'est-ce qui nous attend avec vous, un peu de valse viennoise.
Ah ben oui, ça on n'y coupe pas, c'est une obligation, c'est protocolaire, c'est presque religieux. Le passage du nouvel an, s'il n'y a pas un 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eh bien ça ne marche pas. On passe l'année à 3 temps, ça fait maintenant des années et des années. Ça c'est à cause du fameux concert du nouvel an. Vous savez, à Vienne, avec les géraniums et tout ça, vous regardez pas le
non.
premier au matin, mais il faut absolument, il y a des...
Mais je vais prendre mon billet, j'y vais.
Mais oui, il faut... Ah non, ça, vous aurez du mal, je crois que c'est complet 4 ou 5 ans à l'avance. Mais c'est voilà. retransmis en Eurovision, je crois que c'est l'émission musicale la plus regardée de toute l'année. C'est mais des dizaines et des dizaines de millions de gens dans le monde entier qui regardent religieusement le premier au matin, le concert du Nouvel An viennois.
Mais moi, c'est vous que j'ai très envie d'écouter religieusement.
Ah, j'aime bien quand vous me dites ça. Vous pouvez le redire encore une fois.
C'est vous que j'ai très envie d'écouter religieusement et tous les auditeurs de France Inter aussi. À quoi peuvent-ils s'attendre ce midi? Le mot de la semaine peut-être?
Alors le mot de la semaine, eh bien, je vais distinguer les temps forts des temps faibles. Parce que dans une année, il y a forcément des temps forts et des temps faibles, mais dans une mesure aussi. Mm-hmm. Par exemple, dans une mesure à 3 temps, le temps fort, c'est le premier. Tandis que le deuxième et le troisième, ce sont les temps faibles.
Vous voyez, ça fait 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2. Exactement. Voilà, enfin, vous faites à la parisienne, hein, parce que les Viennois, ils chaloupent un peu, ils anticipent le second. Ils font 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Dans un mouvement plus rond. 3.
Et c'est un peu, voilà, un peu plus chaloupé. Et puis, alors, dans une mesure à 4 temps, eh bien, les temps forts, c'est les premiers et troisième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sauf en jazz.
Mais là, c'est moins chaloupé.
Oui, ah bah oui, parce que c'est une mesure binaire. Mais en jazz, on fait le contraire. On fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est drôle, quand la musique démarre, le public applaudit toujours sur les temps 2 et 4. Ouais. Tandis qu'en France, on est un peu plus bovin, si je puis dire. On applaudit toujours sur le premier et le troisième temps.
Eh mais voilà, ça c'est notre côté français. Alors je regardais un petit peu votre programme quand même, je me suis permise. Une question d'une chambre séparée, j'ai pas bien compris.
Ah oui, alors attention, vous savez que de la même manière que la langue française est aujourd'hui totalement envahie par les anglicismes, il y a eu une époque où le français était la langue chic en Europe. Alors il y avait plein d'expressions comme ça, notamment le vocabulaire amoureux chez les Allemands est en français.
Et le français est la langue de l'amour, bah oui.
Voilà, ich habe ein Rendez-vous. Et alors, il me chante chambre séparée, ça ne veut pas dire qu'on va faire chambre à part, hein, lit à part. En général, ce n'est pas le but de l'opération. C'est le fait qu'on va dîner dans un salon particulier.
Ah, voyez très bien.
Et alors, dans cette fameuse mélodie extraordinaire de Heuberger, tellement langoureuse, qui a été immortalisée par Elisabeth Schwarzkopf, eh bien, il est question de chambres séparées, de champagne. Mais après, je pense que ça ne se termine pas dans des chambres séparées. Enfin, ça, l'histoire ne le dit pas.
Hein. Et l'histoire, la suite de l'histoire, c'est à midi sur l'antenne de France Inter, la preuve par Z. Merci beaucoup Jean-François.
À bientôt Julia. Et surtout, bonne année.
Merci, mais bonne année à vous. C'était Mozart, quintette pour clarinette et quatuor à cordes. Vous êtes sur France Inter. L'instantané de la semaine, c'est une photo, un visage que vous avez vu à la une de tous vos journaux, ou presque, celui de George Michael, mort le 25 décembre dernier. Icône gay, icône pop, incarnation d'une époque. En fait, George Michael en a eu plusieurs de visages, cultivant son image, la travaillant à mesure que sa musique, elle aussi, évoluait de la pop la plus sautillante des débuts à des tonalités beaucoup plus graves, un esthétisme plus sombre au fil des années. Pour en parler avec nous ce matin, Olivier Lam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste critique musicale à Libération. Vous avez consacré 4 pages cette semaine dans Libé à George Michael. Je voulais qu'on parle d'une pochette de disque, l'un des premiers tubes de Wham, Wake Me Up Before You Go Go, 1984. C'est tiré de l'album Make It Big. On y voit donc sur cette pochette deux jeunes gens, l'un en costard blanc, l'autre en costard noir. Ils sont à moitié allongés, ils sont très bronzés tous les deux, ils ont des mèches blondes dans les cheveux. Vous, Olivier Lam, cette image, cette esthétique, vous évoque quoi ?
Elle m'évoque, on va dire, un moment presque d'insouciance, même si c'est un petit peu paradoxal, parce que on sait que la situation, on va dire, au début des années 80, notamment en Angleterre, était beaucoup moins colorée, beaucoup moins rose que ce que laisse présupposer ces images-là. En fait, c'est presque un tout petit peu trop tôt, en fait, par rapport, on va dire, à cette imagerie 80 un peu plus conquérante, qui était notamment celle communiquée par aux États-Unis, hein, par Reagan, et voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une imagerie qui contraste très fort avec celle de la pop juste d'un an ou deux ans avant, celle, on va dire, de la fin de la New Wave, qui était beaucoup plus anxiogène, qui avait un rapport à la technologie, on va dire au progrès, au futur, qui était beaucoup plus anxiogène, beaucoup plus gris, beaucoup plus industriel aussi. Et c'est comme si Wham avait un peu tout changé, ce qui est assez étonnant. Moi, quand je pense au début des années 80, je pense par exemple à Frankie Goes to Hollywood, je pense à The Human League, je pense à Why Gary Newman, je pense à des choses beaucoup plus futuristes, d'une manière vraiment très différente. Et on a l'impression que Wham a complètement changé ça, quasiment du jour au lendemain.
C'est encore plus vrai pour le clip, hein, qui est lui aussi devenu culte. Je le rappelle, on voit George Michael qui sautille dans un micro-short bicolore avec des mitaines fluo aux mains. Ça dit quoi de lui ou ça dit quoi de l'époque ?
Alors c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. On a essayé de se souvenir, en fait, avec Guy Perron, avec qui a fait la nécro avec moi, en fait, de d'où ça venait, en fait, cette espèce d'exubérance. On sait qu'aux États-Unis, à peu près à la même époque, il y avait le glam, le metal glam, où il est comme ça, avec ses coiffures, ses brushings complètement dingues. C'est une imagerie. On a l'impression qu'elle est complètement associé aux années 80, mais en fait, quand George Michael et Andrew Ridgeley, en fait, se montraient de cette manière dans leurs clips, c'était finalement assez nouveau. C'était quelque chose qui était en train d'arriver, mais qui n'était pas encore complètement identifié.
C'est la décennie quand même très aérobique. Je peux pas m'empêcher de penser à Véronique et Davina pour ce qui nous concerne en France. C'est quand même la même époque. Ouais. On est dans quelque chose de très. On montre qu'on va bien. On montre notre joie. On montre qu'on est capable de sautiller parce qu'on est en pleine forme. Il y a de ça quand même.
Ah, complètement.
Et alors là, 3 ans plus tard, virage à 180 degrés pour George Michael, premier album solo, il change complètement de look, on n'est plus du tout dans du très coloré, du très sautillant, il a les cheveux courts, il a un blouson de cuir, il porte un Levi's. Quel message là il veut faire passer, si jamais message il y a ?
Je sais pas s'il y a un message, en tout cas il y a une volonté d'être pris au sérieux, d'être pris comme un vrai artiste, je pense. On a beaucoup parlé du fait que George Michael avait représenter quelque chose pour au même titre que Depeche Mode par exemple, qui pourtant n'était pas homosexuel, pour les homosexuels du monde entier, comme quelque chose d'une revendication, même si lui n'était pas outé, il s'est outé donc à la fin des années 90, comme une espèce d'inconscience, c'est-à-dire que tout le monde entre guillemets le savait et personne vraiment le disait, pour autant il était très écouté par les jeunes filles, et on a l'impression d'une espèce de recentrage un petit peu plus hétéro, j'ai envie de dire presque hétéro beauf en fait d'une certaine manière, avec ce look et ses clips où il faisait jouer son ami de l'époque, on ne sait pas vraiment si c'était sa compagne ou pas. Et quand on regarde le clip aujourd'hui, on voit quelque chose de complètement gay. On a l'impression que c'est presque que ça annonce presque une esthétique, l'esthétique bear chez les homosexuels. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très étonnant. Jusqu'à quel point ce changement de look et de style musical aussi, parce qu'il faut dire qu'il est passé quand même à quelque chose de plus adulte, beaucoup plus influencé par la musique noire, beaucoup plus influencé par le funk. Moi, ça m'évoque un petit peu une volonté de reprendre un peu les choses là où Elvis Presley les avait laissées dans les années 50, avec son fameux déhanché, une espèce de scandale rejouer un peu sur cette corde-là. D'ailleurs, le clip de I Want Your Sex, je crois, avait fait scandale un peu à l'époque. Mais d'une manière pareille, c'est quand même la suite de Wham, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez qui porte assez peu à conséquences politiquement, c'est-à-dire que tout ça a été quand même tout à fait soutenu par MTV qui passait le clip en rotation lourde, voilà. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi emblématique de l'époque que l'était Wham pour le début des années 80.
Et ben vous savez quoi, on va se déhancher ce soir sur I Want Your Sex. Merci beaucoup Olivier Lam, vos belles pages sur George Michael. On les retrouve bien sûr sur libération.fr.
Merci.
Et il est 6h30 sur France Inter. Le journal Léo Téchard, bonjour.
Bonjour à tous. Un passage à l'année 2017 ultra sécurisé. Des forces de l'ordre déployées partout en France, des blocs de béton sur les Champs-Élysées et une initiative locale à découvrir dans un instant à Montpellier, rentrée accompagnée. Un 31 décembre également marqué par le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. Par une résolution étudiée aujourd'hui à l'ONU, la Russie et la Turquie proposent une trêve en Syrie sans l'aide des États-Unis. Et puis une journée qui va encore faire tousser, la qualité de l'air toujours mauvaise en France, et pourtant, croyez-le, c'est mieux qu'il y a 20 ans.
France Inter.
Encore une année sous le signe du risque terroriste, Léo.
5-4-3-2-1, le décompte se fera partout en France avec les 100 000 policiers, gendarmes et militaires déployés pour le réveillon, notamment sur les Champs-Élysées à Paris où des blocs de béton seront installés pour protéger les 600 000 fêtards de la nouvelle année. À Montpellier, c'est pour toute autre chose que les gens veulent se sentir en sécurité, rentrer à pied tard, la nuit finie, les longues marches seules, grâce à l'application Mon Chaperon qui propose du copiétonnage. Son créateur, le Montpelliérain Fabien Boyaval.
Il suffit de télécharger donc l'application Mon Chaperon sur votre store. Ensuite, quand vous allez créer votre profil, vous allez choisir entre un compte chaperon ou chaperonné. Si vous êtes chaperonné, donc vous avez un besoin en sortie de soirée, d'une boîte de nuit ou d'un bar, d'être accompagné, il suffit de vous géolocaliser, de donner votre point de départ, votre destination, l'heure à laquelle vous souhaitez rentrer, et de lancer votre recherche. Et nous allons vous proposer la liste des chaperons citoyens ou des chaperons privés qui sont à disponibilité. Chaperon citoyen, on se rapproche un petit peu du covoiturage, c'est-à-dire que c'est une personne comme vous qui est dans la soirée ou dans une soirée assez proche et qui va rentrer un petit peu au même endroit. Et donc on va vous proposer un itinéraire qui correspond au vôtre. Donc c'est comme le covoiturage, mais à pied. Le chaperon privé, lui, on est plus sur un principe de chauffeur privé, c'est-à-dire que c'est une personne qui a disponibilité et qui va venir vous récupérer et vous amener jusqu'à votre destination. L'application est complètement gratuite. Ensuite, les chaperons citoyens et chaperons privés fixent complètement leurs tarifs.
Une application qui entrera donc en fonction ce soir à Montpellier.
Ce 31 décembre, c'est aussi le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales.
C'est la seule façon de s'assurer qu'on va bien participer à l'élection présidentielle du 23 avril, puis aux législatives en juin. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, il ne vous reste plus que quelques heures, Estelle Schmitt.
Le plus rapide, c'est sur Internet. Si vous vivez dans les 4836 communes qui sont raccordées au service d'inscription électronique, il faut d'abord vous créer un compte sur le site www.service-public.fr, puis remplir un formulaire, télécharger une pièce d'identité, un justificatif de domicile et valider l'inscription. Vous recevrez quelques minutes plus tard par courriel un accusé de réception. La démarche est possible jusqu'à 23h59 ce soir et elle séduit de plus en plus. Dans certaines communes, il y a désormais plus d'inscriptions par internet qu'au guichet. Mais si vous préférez vous rendre dans votre mairie, c'est encore possible aujourd'hui. Des permanences sont ouvertes jusqu'à 16h voire 17h dans quelques villes. Le principe est le même, le formulaire à compléter, les justificatifs à ajouter, mais prévoyez par contre de l'attente. Pour vous inscrire par courrier, en revanche, il est déjà trop tard, car ce n'est pas le cachet de la poste qui fait foi, autrement dit la date d'envoi, mais celle de réception de votre dossier.
Et sachez qu'il faut également être inscrit sur les listes électorales si vous souhaitez participer à la primaire de la gauche les 22 et 29 janvier prochains. Une primaire pour laquelle Bernard Cazeneuve ne soutiendra aucun candidat. Il explique au journal du dimanche que sa fonction de Premier ministre l'oblige à une certaine réserve.
Donald Trump continue de faire les yeux doux à Vladimir Poutine.
C'est les feux de l'amour. Hein. Pendant que Barack renvoie 35 diplomates russes chez Vladimir, Donald, lui, console Vlad. Bien joué, lui dit-il sur Twitter en référence à la décision de ne pas répliquer aux sanctions américaines. Dans un tout autre dossier, la Russie passe la vitesse supérieure. Avec la Turquie, elle propose à l'ONU une résolution sur la trêve en Syrie. Elle sera soumise au vote à 17h, heure française. Sur le terrain, en tout cas, la trêve est respectée, mais elle reste fragile, Laure Stéphane.
Malgré des combats sporadiques ou des bombardements aériens depuis l'entrée en vigueur de la trêve, le cessez-le-feu semble prévaloir sur l'essentiel du territoire syrien. Mais les accrochages soulignent combien l'accalmie négociée par Moscou et Ankara est fragile. Ils rappellent aussi que le cessez-le-feu ne va pas s'accompagner d'un silence total des armes. La trêve ne concerne pas le puissant front Fatah al-Sham, mouvement djihadiste issu d'Al-Qaïda qui a dénoncé l'accord. Elle n'inclurait pas non plus les groupes qui combattent à ses côtés. Les affrontements les plus sérieux ont eu lieu dans les environs de Damas, dans la région de Wadi Barada. D'autres accrochages ont eu lieu dans le centre et le nord-ouest de la Syrie. Mais hier soir, ni les groupes rebelles ni l'armée n'avaient fait état de violation du cessez-le-feu. À la faveur de la trêve, des manifestations anti-régime se sont déroulées dans les régions tenues par les insurgés dans le nord de la Syrie. Des manifestations durant lesquelles les participants ont aussi appelé à l'unification des factions anti-Assad. Hier, suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'ONU a lancé un appel aux autorités syriennes pour qu'elles facilitent l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
Et maintenant, cette histoire digne de la série littéraire SAS. Vous savez, ces romans d'espionnage mêlant géopolitique et érotisme. Lundi, l'ambassadeur grec au Brésil a été retrouvé mort. Eh bien, on a appris hier qu'en fait, il a été tué par l'amant de sa femme, un policier brésilien dont son complice de cousin aurait pu toucher 24 000 $ dans l'affaire.
Mais j'adore. En France, on ne respire toujours pas mieux.
Non, encore de la pollution aux particules fines aujourd'hui dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, ainsi que dans le sud-ouest autour de Montauban, Toulouse, Lourdes et Tarbes. À Paris, la pollution est repassée sous le seuil d'alerte, mais la qualité de l'air reste médiocre. Enfin, c'est difficile à croire, Sandy Dauphin, mais elle reste meilleure qu'il y a 20 ans.
On a tendance à l'oublier avec le Volkswagen Gate, mais les constructeurs de voitures fabriquent des moteurs beaucoup plus propres qu'avant. Le plomb a disparu de l'essence et donc de l'air, et les industriels ont dû faire de gros efforts pour réduire leurs émissions de polluants, notamment le dioxyde de soufre. Globalement, on respire mieux qu'avant. À Paris, les émissions de particules fines ont diminué de 35% en l'espace de 10 ans. C'est dire si la qualité de l'air était mauvaise. Par contre, c'est vrai qu'il y a plus de pics de pollution aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est parce qu'en 2011, la procédure du déclenchement des alertes à la pollution a été changée. On considère qu'il faut informer la population quand le taux de particules fines dans l'air dépasse les 50 microgrammes par mètre cube. Avant, c'était 80. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de la pollution atmosphérique. Encore beaucoup trop de gens respirent un air toujours trop pollué. On estime par exemple qu'1 600 000 franciliens sont exposés à une qualité de l'air qui ne respecte pas les normes.
Sandy Dauphin pour France Inter. Et puis juste un petit dernier mot sur le Vendée Globe qui tient toutes ses promesses. Armé Le Cléache a repris ses distances avec Alex Thompson. 150 000, c'est plus de 250 km qui distancent maintenant les deux skippers au large du Brésil.
Merci Léo Técher. Il est 6h37, vous êtes sur France Inter.
La météo avec les chapons fermiers de Loué. Authentique chapon fermier.
Et la météo France, on retrouve Jean-Michel Golinski. Bonjour.
Eh bien, bonjour.
Il fait froid aujourd'hui, hein, Jean-Michel?
Ah, c'est le cas de le dire, hein. Heureusement, les volailles de la Bresse sont des plumes. Il fait entre moins 3 et moins 8 degrés en général en ce début de journée, avec des brouillards qui sont souvent givrants. Seule la côte d'Opale, les départements de la Manche et du Finistère, l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen échappent aux gelées. En journée, les valeurs maximales ne dépasseront que rarement 0 à 3 degrés sur une large moitié nord et du nord-est lyonnais. Notez que sur ces régions, le brouillard ne se lèvera pratiquement pas de la journée. De la Loire aux Pyrénées jusqu'au golfe du Lion, les grisailles seront également tenaces, avec 4 degrés cet après-midi à La Rochelle, 6 à Cognac, 8 à 10 dans le sud-ouest, 13 à 14 de Perpignan à Montpellier. Les meilleures chances de soleil et les températures les plus douces, on les trouvera aujourd'hui sur la Corse et sur la Provence, avec 16 degrés à Ajaccio, 15 à Nice, ainsi qu'à Toulon.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Dans votre magazine de nature et d'environnement, direction le département du Tarn, au sud de la France, pour y retrouver Jean-Louis Etienne. Entre l'Ail de Lautrec et le pays de Cocagne, il y a le lieu d'enfance de notre aventurier qui aime le froid. Et cette fin d'année est l'occasion de respirer un air doux avec ce défenseur du vivant, ce monteur d'expédition qui veut toujours vivre avec un rêve d'avance.
C'est au de mon amour, tous les samedis sur France Inter. À partir de 14h.
Pendant toute sa vie professionnelle, Nicolas a anticipé. Elle a pris les devants, calé des rétroplannings. Pourtant, aujourd'hui, c'est son pot de départ à la retraite et elle est un peu débordée par l'émotion. Mais pour son dossier retraite, tout est OK. Il y a 6 mois, elle l'a transmis à l'assurance retraite. Elle est pro jusqu'au bout, Nicole.
Alors pour démarrer votre retraite en toute sérénité, transmettez votre dossier complet 4 à 6 mois avant votre départ. C'est l'assurance d'un passage à la retraite sans interruption de ressources. Plus d'infos sur l'assurance-retraite.fr. Votre retraite de la sécurité sociale.
Dans quelques minutes, les titres de la presse avec Rémi Inc. Mais d'abord, on écoute Le Chat de Steve, Monde Sauvage, ou en version originale, Cat Stevens, Wild World.
Lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a wild. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware, beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl.
Cat Stevens nous quitte et Rémi Inc vient de nous rejoindre. Bonjour Rémi.
Bonjour Julia Foyce.
Les titres de la presse.
Le dernier jour de l'année, beaucoup de quotidiens consacrent évidemment ce matin leur une au bilan de l'année écoulée et à ce qui vous attend en 2017. Libération et son dossier spécial. 2016, année de dingue. Un dessin de Donald Trump, le président américain élu, embrassant à pleine bouche le président russe Vladimir Poutine. Un baiser gelé symbolisant un retour des périodes de guerre froide. Un baiser forcé entre les deux dirigeants. Et ce retour sur cette passe d'armes entre les deux pays, cette cyberguerre venue du froid, Poutine assurant hier que la Russie n'expulserait finalement aucun diplomate américain en réaction à l'annonce de sanctions prises contre Moscou pour son implication présumée dans le piratage informatique survenu durant la campagne présidentielle américaine. Donald Trump qui salue cette décision. « Joli coup, j'ai toujours su qu'il était très intelligent », écrit-il sur son compte Twitter. Dans son édito de la Nouvelle République du Centre-Ouest, Denis Domain revient lui aussi sur cette décision. « L'initiative tardive d'Obama, trop longtemps différée, relève de l'intention testamentaire. Elle sera aussitôt enjambée par son successeur républicain. » Aux États-Unis, les présidents se suivent, ne se ressemblent pas et ne restent guère. En Russie, on a l'espace et le temps long, c'est ce qu'on appelle la durée. Drôle d'entrée en matière pour la nouvelle année, écrit-il. Les héros de 2016 pour le Parisien aujourd'hui en France, les héros de 2016 également pour la Charente libre. Le Charentais de l'année est un petit garçon, Enzo, qui a sauvé des chiots jetés à l'eau à Angoulême. 7 mois après son geste, le quotidien est retourné voir le jeune garçon discret. La fête de la Saint-Sylvestre pour le Courrier de l'Ouest, déguisement et bonne table, titre le quotidien. Et un guide des meilleurs déguisements pour enterrer cette année difficile, super-héros ou princesse, à vous de choisir. Des quotidiens qui souhaitent de bonnes fêtes à leurs lecteurs, forcément. Et surtout la santé, dit l'Est Éclair. Un bonne année, toujours simple et efficace pour Paris-Normandie, le Télégramme et la Presse de la Manche. Des contrôles pour un réveillon serein pour les dernières nouvelles d'Alsace. Contrôle routier, ne prenez pas le volant. Si vous avez bu ce soir, près de 9 Français sur 10 vont boire de l'alcool. Des fonctionnaires à vos côtés pour assurer la sécurité, près de 100 000 policiers, gendarmes et militaires déployés partout en France. L'année 2017 qui sera politique pour le Courrier Picard, qui rappelle que c'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. La ruée vers les mairies de Picardie pour pouvoir glisser son bulletin dans l'urne l'année prochaine. Politique aussi en une du journal du dimanche, avec dans ses pages une interview du Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui revient notamment sur la baisse du chômage au mois de novembre. Bernard Cazeneuve qui profite de cette tribune pour se démarquer de son prédécesseur Manuel Valls, qui demande la suppression du 49-3. « Je considère que le 49-3 peut être utile », estime Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui indique également qu'il n'apportera son soutien à aucun candidat de la primaire de la gauche. « Je suis garant de l'unité de la majorité par-delà les primaires. Cela m'oblige à une certaine mesure et je tiens toujours bon », lance le Premier ministre. Les derniers vœux de François Hollande, également bien en place dans les quotidiens. Dans l'Est républicain, Philippe Marcassi prédit qu'il sera question de bilan et de perspective. François Hollande a raté son mandat, il est en train de réussir sa sortie, à confirmer ce soir. D'ici là, vous êtes en compagnie de Julia Foïs jusqu'à 9h ce matin.
Merci Rémink, vous revenez à 8h30 pour une revue de presse complète.
Le 6-9 du week-end sur France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, Delphine Simon vient de nous rejoindre. Bonjour Delphine.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Et bonjour le vrai faux de l'Europe pour notre dernier rendez-vous de l'année, un coup d'œil dans le rétro.
Oui, retour sur le Brexit, le référendum britannique sur la sortie de l'Union Européenne. C'est sans doute l'événement le plus marquant de l'année. Alors au cœur de la campagne des pro-Brexit, on a beaucoup entendu cet argument de l'ancien maire de Londres, le conservateur Boris Johnson, que nous avions d'ailleurs également diffusé dans le vrai faux.
C'est une occasion unique dans notre vie de reprendre le contrôle de notre pays, de notre démocratie, de beaucoup d'argent, 350 millions de livres partent chaque semaine à Bruxelles.
Cet argent, Delphine, les pro-Brexit n'avaient-ils pas promis de le consacrer à la sécurité sociale, le NHS ?
Oui, c'était même affiché sur les bus et sur les murs à Londres. Cet argument des pro-Brexit, il séduit maintenant aussi en France. Écoutez ce qu'en dit Nicolas Dupont-Aignan, le candidat à la présidentielle de Debout la France.
Je propose d'utiliser l'argent de l'Union européenne. Vous savez qu'on donne 8 milliards à l'Union européenne, 8 milliards par an. Vous vous rendez compte la somme que c'est ? Pour financer nos concurrents polonais ou roumains. Je propose que ces 8 milliards, on augmente les pensions de retraite des 6 millions de retraités qui ont les plus faibles pensions de retraite de 100 euros par mois.
L'idée de Nicolas Dupont-Aignan n'est pas très éloignée de celle de Boris Johnson finalement. Alors la France donne-t-elle 8 milliards d'euros par an à l'Union européenne? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Delphine?
Alors c'est vrai, même si le président de Debout la France est un petit peu imprécis. En fait, la France verse au budget européen non pas 8 milliards d'euros, mais 20 milliards. Ce sont les chiffres de 2014. Si on déduit ce qu'elle reçoit en retour de l'Europe, et principalement sous forme d'aide aux agriculteurs, c'est-à-dire son solde net, Nicolas Dupont-Aignan a raison, ça fait bien 8 milliards d'euros.
Et donc il n'a pas totalement tort quand il dit que la France donne plus qu'elle ne reçoit de l'Europe.
Oui, c'est vrai, mais l'Europe, ce n'est pas un calcul à somme nulle. Ce que les États donnent, ils ne le reçoivent pas forcément en retour, en monnaie sonnante et trébuchante. Le budget européen, ça sert aussi à des économies d'échelle. On vient d'assister tout juste au lancement du GPS européen Galileo. Eh bien, aucun pays n'aurait pu le faire tout seul. Et puis, il faut rappeler que nous sommes, en Europe, le pays qui bénéficie le plus des aides européennes, derrière la Pologne, mais juste devant l'Espagne.
Nicolas Dupont-Aignan affirme aussi que ce que la France verse à l'Europe sert à financer nos concurrents polonais ou roumains.
Alors c'est vrai ou faux ? Ouais, c'est vrai que le budget européen profite beaucoup aux anciens pays de l'Est. La plupart reçoivent plus qu'ils ne donnent. La Pologne est le premier bénéficiaire net en volume, on l'a dit, comme l'Espagne il y a 20 ans. Ce que propose Nicolas Dupont-Aignan, c'est donc finalement que la France sorte de l'Union européenne. Il faudrait alors renoncer à toutes ces aides-là pour augmenter les petites retraites. Et puis, rien ne dit que le candidat à la présidentielle, s'il est élu, ne fera pas comme le leader du parti eurosceptique UKIP, Nigel Farage, au soir de la victoire du Brexit. Brexit, reconnaître que sa promesse était simplement une erreur. It was a mistake.
Merci Delphine Simon. Il a 18 ans à peine. Il est originaire d'El Paso au Texas. On écoute Coolid Location.
Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me. This is new to you. Initially I didn't wanna fall, but you gathered my attention. It was all for you. So don't take advantage. Don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of some sweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. Ride, 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 come and vibe with me tonight, I don't need nothing else but you. Ride, 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 come and vibe with me tonight, I don't need nothing else but you.
Livre en poche sur France Inter. Bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour Julia.
Alors pour cette fin d'année, on se plonge dans un classique avec Martin Eden de Jack London et ses chefs Folio.
Jack London est entré cette année dans la prestigieuse collection de la Pléiade chez Gallimard et il faut battre en brèche cette idée reçue que London est un auteur pour ados. C'est bien sûr Cro-Blanc qui lui a donné cette image, mais très souvent, enfant, on le lit dans une version qui est expurgée. Ici, avec Martin Eden, on est dans un roman d'initiation, un formidable roman. Certes, on est plus loin de la nature, mais on est dans la nature humaine et de plein pied. Martin Eden est un jeune marin de 20 ans, déjà bien expérimenté, et pour avoir aidé Arthur lors d'une bagarre sur un ferry, il est invité un soir chez ce garçon, jeune bourgeois, qui lui présente sa famille, dont sa sœur, la très jolie et cultivée Ruth. Pour Martin, c'est une révélation, un monde de raffinement et de savoir. Alors Martin n'a jamais été un rustre, hein. Il a toujours été sensible à la beauté, il aime lire, il s'est toujours senti un peu différent de son milieu, et en quittant cette maison bourgeoise, malgré ses maladresses, il n'a qu'une envie, c'est se rapprocher de Ruth et surtout d'apprendre. Et c'est ce qu'il va faire, se cultiver, sortir de sa carapace, aidé en cela par l'amour et la transformation aussi de Ruth, qui ouvre son cœur à cet homme si éloigné de sa condition, mais dont la force l'emporte malgré elle. Martin Eden devient un auteur à succès, et nous assistons à la douleur du changement, de l'abandon des siens, mais aussi à la force de la conviction. Mais voilà, que laisse-t-on derrière soi quand on a bouleversé sa vie, et un auteur que sacrifie-t-il quand le succès est là? Alors, je pense qu'il y a du Balzac dans Jack London, un Balzac entraîné par la puissance d'un pionnier américain, indispensable à lire ou à découvrir.
On ne quitte pas les classiques américains, Jacqueline, avec les collecteurs de chez 10-18.
Alors c'est une découverte, je vous l'avoue, de fait que je préfère. C'est Dalva de Jim Harrison, un attrape-rêve or et argent sur fond bleu nervuré. Et là aussi, le bouillonnement de la vie, du renouveau. Et puis il y a la puissance des racines du peuple Sioux, superbe bien sûr, à lire en hommage à Harrison qui nous a quittés cette année. Et puis toujours chez 10-18, le Murakami de Noël, qui cette année fait un petit peu peur. Papier glacé, il illustrations sombres et effrayantes de Catman Skitch pour ce petit garçon qui se perd dans les livres d'une étrange bibliothèque municipale.
Chez Point, on voit les fêtes en 3D.
Alors avec un polar devenu un classique, on y reste, hein, Mort d'une héroïne rouge de Xiaolong Qiu, c'est la première enquête de l'inspecteur Chen. La couverture est superbe avec Nénuphar et Carpe Coy. Et puis un polar qui s'est vendu quand même à plus de 2 millions d'exemplaires, c'est un bon polar. Et puis Point publie aussi en habit de fête le très beau Goncourt 2014, Pas pleurer de Lydie Salvert, avec un arbre en dentelle de papier au centre d'une élégante couverture noire.
Et ben voilà, on a de quoi faire pour les 6 prochains mois au moins. Merci Jacqueline Pétros pour cette belle moisson. Dicosomatique sur France Inter et bonjour Aurore Vincenti.
Bonjour Julia.
Dans cette chronique sur les maux du corps, vous avez commencé la saison avec les orteils, puis on est remonté. Et pour clore l'année, vous nous parlez du dos.
Oui, ce dos qu'on ne voit pas parce qu'il est à l'arrière de notre corps. Et je vais commencer avec un petit peu d'étymologie. On ne se connaît pas encore, Julia.
Mais non, pas bien.
Voilà, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et il faut que vous sachiez que l'étymologie, c'est un petit peu mon dada.
J'ai cru comprendre. Donc, voilà.
Alors, le mot latin dorsum, que l'on retrouve dans dorsal, a donné le mot dos. Ce mot désigne le dos, l'échine et la croupe chez l'animal, donc le dos horizontal. Nous, les humains, on ne se tient plus à quatre pattes, donc notre dos est vertical. Et ce mot dorsum n'était pas du latin noble, mais un latin employé par les esclaves. Dans chaque langue, il y a plusieurs niveaux d'expression, plus ou moins châtiés, courants, populaires, et dorsum, c'est populaire. Alors qu'il y avait un autre mot latin qui existait déjà avant dorsum pour désigner le dos, c'était tergus. Nous, en français, on a gardé dorsum et on a oublié tergus, sauf dans un verbe qui est le verbe tergiverser.
Et oui.
Il signifie littéralement tourner le dos. Tergi, c'est le dos, et verser, c'est tourner pour éviter, par exemple, éviter une situation désagréable. Voilà comment on tergiverse littéralement et surtout physiquement. On peut aussi tourner le dos à quelqu'un ou à une situation si on ne veut plus en entendre parler et si on veut le ou la laisser derrière soi. C'est ce que fait France Gall.
Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement sans chaos ni. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma...
Et ce mot dos est, je dirais, chargé d'une symbolique particulière dans le langage courant, une symbolique plutôt négative. Et ce parce que le système nerveux central est situé au niveau du cerveau, certes, mais aussi de la colonne. C'est là que viennent se loger la pression, les attaques, les mauvaises nouvelles. Par exemple, quand on nous met quelque chose sur le dos, on nous en rend responsable. On porte donc la charge de cette responsabilité sur le dos. Parfois, ce n'est pas justifié, on dira alors qu'on a bon dos. Et à force, on finira par en avoir plein le dos. Et on en revient à cette définition du mot dorsum en latin, c'est le dos de l'animal que l'on charge.
C'était une bête de somme, quoi.
Voilà, exactement, une bête de trait de somme, qui porte sur son dos ce que l'homme ne porte pas. Donc cette charge est souvent vécue dans le langage courant comme inhumaine. Et cette dimension inhumaine, on la retrouve aussi dans la lâcheté de celui qui vous fait quelque chose dans le dos, et pas qu'un bébé. C'est le comble de la couardise d'attaquer quelqu'un qui vous tourne le dos, de lui planter un couteau dans le dos. Non, on doit s'affronter de face.
Alors, Aurore, si j'en crois mon français de Belgique, quand on parle de sur le dos de quelqu'un, en fait, on le fait à son insu.
Oui, c'est vrai. Et chez Brassens, les femmes se laissent manger le plaisir sur le dos.
Peut-être, mais si les assauts vous pèsent, de ces petits m'as-tu vu quand je baise, mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto. 95 fois sur 100.
J'adore cette chanson. Mais oui, mais alors moi j'y pense à la bête à deux dos. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Enfin, je crois savoir et j'aimerais bien que.
Alors, faire la bête à deux dos, c'est faire l'amour. Ça, voilà. Vous devez le savoir. Et cette expression.
Faire l'amour, je sais pas si je sais faire l'amour.
Bon, en tout cas, vous devez connaître le sens de l'expression.
Oui.
Mais son origine est rablaisienne. C'est une expression qu'on trouve chez Rabelais. C'est lui qui l'invente. Et en fait, c'est juste l'idée que quand on est sous les draps et qu'on est à deux dos, voilà, on a deux dos et on.
Mais vous êtes génial, voilà. Vous avez répondu à tout.
Écoutez, aujourd'hui, sur cette expression, oui, spontanément, je l'ai, mais pas pour tout. En anglais, le dos se dit « back ». Et ce mot « back », c'est aussi l'arrière.
to back someone, avec le verbe, signifie soutenir quelqu'un. Et en français, le soutien, on le trouve davantage du côté de l'épaule. Quand on épaule quelqu'un, on l'assiste, on le soutient. Mais j'aime bien penser que l'arrière du corps, ce n'est pas seulement ce bagage qu'on se trimballe, mais c'est aussi ce qui nous soutient pour avancer, pour aller de l'avant. Et ce soutien, on le trouve en plein milieu du dos. Il le traverse de haut en bas, c'est l'axe de notre colonne vertébrale. Et cette colonne, bien qu'elle soit tout en courbe, elle nous permet de nous tenir droit et de tenir debout. En somme, elle soutient notre verticalité. Alors, si on sort de 2016 en en ayant eu plein le dos, on peut attaquer 2017 avec le soutien de notre colonne vertébrale.
Et est-ce qu'en 2017, on va continuer à remonter dans l'endicosomatique ?
Oui. Théoriquement, ça devrait se passer comme ça et on affronte un muscle majeur dans le corps humain qui est transversal,
ouais.
C'est le diaphragme la semaine prochaine.
Très bien, alors merci Aurore Vincentier. Donc rendez-vous avec le diaphragme la semaine prochaine. On se dit bonne année.
Bonne année à vous.
Dicosomatique, vous retrouvez en podcast, bien sûr, sur le site de France Inter, franceinter.fr, ainsi que tous vos rendez-vous du 6-9 à consommer sans modération. France Inter, il est 7h. Le journal de Denis Astagnaud, bonjour.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Un espoir pour les éléphants, la Chine va interdire tout commerce et transformation d'ivoire d'ici la fin de l'année 2017. Une activité qui consomme 70% de l'ivoire dans le monde. 20 000 éléphants ont été tués en Afrique l'an dernier. Réveillonnés, vous êtes surveillés dans le monde. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour prévenir les tentatives d'attentats, particulièrement en France et en Allemagne, après Nice et Berlin. Plus de pouvoir pour les régions, moins pour les départements et les communes, sauf si elles se regroupent. C'est le dernier volet de la loi NOTRe mise en place dès demain. Le détail dans ce journal. Touche pas à mon toboggan, sujet glissant dans l'Isère. Des jeux pour enfants installés à côté d'habitations provoquent trop de nuisances sonores. Les riverains se plaignent, les parents d'enfants se défendent.
France Inter.
Une bonne nouvelle pour les éléphants d'Afrique.
Il ne reste guère plus de 400 000 pachydermes sur tout le continent africain. 20 000 sont massacrés chaque année par les braconniers pour leur ivoire. Ivoire qui est importé en contrebande, principalement en Asie et notamment en Chine. D'où l'importance de la décision du gouvernement chinois. Il se donne un an pour stopper tout commerce et transformation d'ivoire sur son territoire. Précision de Shanghai avec Angélique Forget.
La Chine ne veut plus qu'on dise d'elle qu'elle est responsable du braconnage des éléphants d'Afrique. Dans le continent, un pachyderme est tué en moyenne toutes les 26 minutes pour son ivoire. Un carnage qui sert en grande partie à approvisionner le marché chinois, le premier au monde. Selon certains experts, 70% de la demande vient de Chine. Les Chinois apprécient particulièrement la sculpture sur ivoire, considérée comme un art traditionnel et un symbole de richesse. Les prix peuvent atteindre jusqu'à 1000 euros le kilo. Le commerce de l'ivoire est interdit à l'échelle international depuis 1989, mais sa vente à l'intérieur de la Chine et sa transformation étaient, elles, toujours autorisées, ce qui offrait aux trafiquants une couverture pour blanchir leur ivoire. Mais le président chinois Xi Jinping avait promis d'y remédier dans le cadre de sa lutte anti-corruption. Les sculptures en ivoire pouvaient servir de pot de vin, une façon aussi de redorer l'image de la Chine en Afrique. Shanghai, Angélique Forget, France Inter.
Les associations de défense des éléphants comme Robin des Bois en France se félicitent de cette décision.
Le réveillon de ce soir sous haute surveillance, Denis.
Partout dans le monde, les forces de sécurité sont en alerte. En France, 96 000 fonctionnaires, policiers, gendarmes, militaires vont patrouiller ce soir, dont 10 300 pour la seule région parisienne et spécialement la fête sur les Champs-Élysées à minuit. En Allemagne, le dernier pays touché par les attentats, le terrorisme islamiste est la principale menace, a déclaré Angela Merkel dans son allocution de Nouvel An. Elles vont renforcer les mesures de sécurité, non seulement à Berlin, où la police a bouclé la Pariserplatz devant la porte de Brandebourg, mais aussi à Cologne, où, souvenez-vous, le nouvel an de l'année dernière avait donné lieu à des agressions contre des femmes. Cette année, la ville rhénane n'a pas lésiné sur la sécurité, Luc André.
La police de Cologne a multiplié par 10 ses effectifs pour la nuit du nouvel an. Les autorités tirent les leçons des scènes de chaos de la Saint-Sylvestre 2015. Des patrouilles revêtues de vestes fluo sillonneront les abords de la gare et de la cathédrale, là où la plupart des incidents se sont produits l'an dernier. Le dispositif comprend un quadrillage des trains en direction de Cologne pour repérer en amont les fauteurs de troubles. Entre policiers locaux, fédéraux et vigiles de la municipalité, ce seront près de 3000 personnes qui veilleront sur la Saint-Sylvestre à Cologne. L'attentat de Berlin le 19 décembre a conduit à des mesures supplémentaires détaillées par Jürgen Mathis, patron de la police de Cologne. Nous allons ériger 34 barrières de béton pour qu'aucun véhicule, voiture ou camion, ne puisse accéder aux zones sensibles des ponts et de la rive gauche du Rhin. Cologne ne veut pas donner à voir que des uniformes. La municipalité a prévu une installation lumineuse sur la célèbre cathédrale. Elle doit transporter l'idée d'une ville ouverte sur le monde et sûre, une image que la cité rhénane ambitionne de retrouver. Berlin, Luc André pour France Inter.
Qu'est-ce qui va changer à partir de demain? C'est la question que l'on se pose tous les 31 décembre. Cette fois, ce sont les auditeurs de France Inter qui pourront toujours nous écouter en France en modulation de fréquence et sur Internet, mais plus en grandes ondes. Le timbre et les autoroutes qui augmentent, les sacs plastiques bannis des rayons aux fruits et légumes, le tiers payant généralisé chez les médecins, et puis dès demain, le troisième et dernier volet de la loi NOTRe qui redéfinit les compétences entre les régions, départements et communes. Et ce sont les régions et les regroupements de communes qui y gagnent, Christophe Maga.
Plus de pouvoir pour les intercommunalités. Elles pourront gérer le traitement des déchets, le tourisme ou encore l'accueil des gens du voyage. Les communes devront pour cela se regrouper et compter au moins 15 000 habitants contre 5 000 auparavant. Plus de pouvoir également pour les régions. En plus des trains express régionaux, les TER, elles auront en charge les gares routières, les transports entre les villes par car et près de 300 ports. Les régions s'occuperont des transports scolaires à partir du 1er septembre prochain. D'ici là, ce sont les départements qui conservent cette compétence. Les régions joueront aussi un plus grand rôle économique. Elles décident